Popopienne, Popopien et tous les autres aussi, bonjour. C'est vendredi, c'est Podcasty. Une fois pour toutes, le jour où Popopop en perd deux, des pop, pour les remplacer par des pods et leur adjoindre un petit cast, ce qui nous donne un Popopodcast. Oui, l'univers luxuriant des podcasts qui croient à la vitesse où les espèces menacées disparaissent sans qu'aucune relation de cause à effet ait pu être établie à ce jour. Aujourd'hui, un sujet d'intérêt général qui passionne à peu près tout le monde, y compris certains ecclésiastiques ayant pourtant fait vœu de chasteté, la sexualité masculine. Un podcast au succès considérable, mené par Anne-Laure Parmentier, notre invitée, qui en a fait son sujet d'étude en laissant les intéressés en parler eux-mêmes au lieu de convoquer des experts ou des consultants en consulting, comme il en défile tant dans les médias. Le résultat est passionnant, en tous les cas pour le candide classique hétéro-monogame que je suis, à la libido aussi capricieuse que les indices boursiers qui, comme chacun sait, ont tendance avec l'âge à pendre de plus en plus lamentablement vers le sol, gravité oblige. Bref, ce Popa Podcast s'annonce passionnant. Comme toujours, me direz-vous, et vous aurez raison. Popa Podcast, épisode 30, c'est parti.
France Inter. Popopop. Antoine de Gaulle.
Bonjour Anne-Laure Parmentier.
Bonjour Antoine.
Bienvenue dans Popa Podcast.
Merci.
Alors, première épreuve, évidemment, c'est arrivez-vous à prononcer correctement le nom de cette émission.
Alors, Popa Podcast.
Waouh ! Ah, celui-là, il me cloue littéralement.
J'ai répété. Non, hein.
Vous avez répété, oui. Répétez-le, justement.
Popa Podcast.
Incroyable. Bon, moi, je dis bravo et merci, Anne-Laure. Alors, nous pouvons continuer. Aujourd'hui, nous allons donc parler de On The Verge, votre podcast qui s'intéresse à la sexualité masculine. On The Verge, c'est un podcast indépendant à retrouver sur toutes les plateformes, notamment celle de la marque à la pomme. C'est Apple, non? Et pourtant, il y est plus question de pêche, de bananes que de pommes niveau fruits. Rassurez-nous, allons-nous également parler de bananes, d'aubergines, d'abricots, pour ne pas faire de jaloux?
On va parler de tous les fruits, ça va être une belle salade de fruits.
Ouais. Oh, ça va être une belle salade. C'est important de manger 5 fruits et légumes par jour.
Il paraît, ouais.
Oui. Vous le recommandez crois. Aussi?
Moi, je recommande ce qui fait plaisir aux uns et aux autres, surtout.
On the verge, ça signifie sur le point de, en anglais, mais de l'autre côté de quoi? Parce que prononcer à la française, ça donne « on the verge ».
Exactement.
Et d'un seul coup, c'est beaucoup plus clair.
Et vous comprenez mieux, du coup.
Oui.
C'est vrai, ouais. On the verge, c'est de l'autre côté d'eux, de la rive d'eux.
Ouais.
Il y a plusieurs traductions. Et c'est vrai que c'était intéressant, en tant que femme, de m'intéresser à la sexualité masculine.
Mais c'est aussi, d'après mon rédacteur en chef qui se prétend anglophone, sur le point d'eux.
Alors, ça peut l'être sur un Américain un peu plus argotique, ouais.
Oui. D'accord. Je vais lui dire, un Américain un peu plus argotique, il se la pète en anglais.
Oui,
okay. D'accord. Initialement, vous vouliez appeler ce podcast « Fallu y penser
». Vous êtes bien renseigné.
Mais je sais tout. Alors pourquoi avoir changé de route, ou plutôt changé de biroute?
C'est vrai que je trouvais ça très sympa, « Fallu s'y penser ».
Ouais.
Et j'ai quelques copains qui j'en ai parlé, qui m'ont dit qu'en 2019, le moment où j'ai lancé le podcast, c'était un peu ringard, les jeux de mots.
Ah oui.
Et j'ai...
Je suis très embarrassé parce que vous me dites...
Bah oui, je sais, parce que j'ai vraiment une passion pour ça. Et en fait, c'est le mari de mon associé qui est publicitaire, avec qui on a discuté de ce podcast et qui a eu cette merveilleuse idée. Donc merci Nicolas encore.
Merci Nicolas pour On The Verge. Alors ce podcast, nous allons en parler avec Charline Roux, qui va nous rejoindre juste après Amour toujours de Clara Luciani, car il sera question d'amour évidemment dans cette émission.
Souvent.
D'ailleurs, j'ai vécu tout de suite la question inévitable. Anne-Laure Parmentier, vous préférez l'amour sans sexe ou le sexe sans amour?
Ah, c'est une très bonne question. Ça dépend des lunes et des moments.
Ça dépend des lunes et des moments. Bah écoutez, je réfléchis à cette réponse et je continuerai à poser des questions gênantes, mais à Charline Roux, ça sera dans 2 minutes, le temps qu'elle arrive.
D'enfants, il n'y a pas la place, il n'y a pas le temps, personne. passionnément. Un peu, beaucoup, pas du tout. Amour toujours, mais pas longtemps. À la folie, passionnément. Un peu, beaucoup, pas du tout. Amour toujours. Quitter devant dévorer l'autre le premier. Car pour ne faire plus qu'un, il faudra laisser. Un peu, doucement, quelque part. Quitter devant dévorer l'autre le premier. Car pour ne faire plus qu'un, il faudra laisser. Un peu, doucement, quelque part.
À Hamur toujours, c'est signé Clara Luciani et c'est le morceau que Charline Roux a choisi pour nous rejoindre. Bonjour Charline.
Bonjour, car je ne suis qu'amour, il
mais
est vrai.
Je sais. Je présente Anne-Laure.
Enchantée. Enchantée Charline.
Charline, peut-on dire que vous êtes une grande romantique picarde?
Non, on peut pas le dire, non. À aucun moment, dans aucune circonstance.
Vous avez écouté on the Verge, le podcast de notre invitée Anne-Laure Parmentier et trois petits points.
Et j'en ai appris bien plus sur la gente masculine qu'en 44 années d'existence, enfin pour être tout à fait précise sur son rapport à la sexualité. Dans le podcast, les hommes parlent en toute confiance, en liberté, guidés par notre invitée, avec un parcours balisé en trois parties. On est d'accord qu'il s'agit de témoignages et non de confessions, puisqu'on ne parle pas de faute à expier dans ce podcast.
Exactement. Merci
vous faites
de
la
préciser.
Vous faites la nuance aussi, vous.
Oui, c'est très important d'avoir tout type de témoignage. Loin de moi l'idée de juger. C'est vraiment sans tabou, sans jugement. Et c'est ça qui est intéressant à mon sens, c'est que effectivement les hommes qui viennent parler à ce micro sont à un moment donné dans une réflexion personnelle, mais certains vont passer. Alors pardon, je ne sais pas si on peut dire quelques gros mots à ça.
Allez-y.
Ok, merci. Mais certains passent vraiment pour des connards.
Oh.
Waouh.
Comment osez-vous dire des choses pareilles?
J'ai parfois des réactions d'auditeurs et d'auditrices qui sont assez choqués par certains propos. Mais c'est comme ça. C'est ça qui est intéressant. Si on écoutait que les hommes déconstruits qui parlent en pluriel, enfin en pronom il, si tout le monde était très à l'aise avec le consentement, on n'aurait pas les problèmes qu'on a dans notre société. Donc c'est intéressant aussi d'écouter tout type d'hommes, tout type d'âge, tout type d'horizon, de catégories socio-professionnelles, de religion. Enfin voilà, j'essaie en tout cas de faire très attention à cette diversité.
Et le parcours rituel de votre podcast commence ainsi.
Quel est ton tout premier souvenir lié à la sexualité?
C'est ma mère en fait qui a créé, malgré elle, ma première masturbation.
Ok.
Parce que du coup, quand j'étais petit, je pense que je devais avoir 10-11 ans, on avait un livre dans les toilettes qu'elle avait pris à la bibliothèque et qui parlait de comment gérer son ado. Et du coup, il y avait un paragraphe sur la sexualité et qui en fait parlait de si vous avez un petit garçon, comment vous faites si vous le trouvez en train de se masturber dans sa chambre ou ce genre de choses. Et en fait, j'y avais jamais pensé avant. Et j'ai lu ce paragraphe et je me suis dit, ah mais ouais, en fait, je peux... j'avais capté qu'il se passait un truc, que je pouvais faire quelque chose, mais... Je m'étais jamais, j'avais
trop
jamais
penché
essayé
sur la question, quoi.
Ouais. Et en fait, j'ai trouvé ce livre et je me suis dit bon,
allez go.
Je vais essayer.
Ça, c'était Damien. Vous vous souvenez de Damien, Anne-Laure?
Damien, bien sûr. Je me souviens presque tous.
Ouais.
Oui. De mémoire, Damien parle de son coming out.
Mm-hmm.
Ouais. J'ai un très bon souvenir de Damien parce que justement, on s'est rencontrés. Enfin, j'essaie au maximum de rencontrer mes invités. Confinement obligé, appris à enregistrer à distance, ce qui m'a permis aussi d'ouvrir les frontières considérablement. Mm-hmm. Parfois, j'enregistre sur des fuseaux horaires un peu différents. C'est assez cocasse. Mais oui, Damien, c'était une chouette rencontre. On est toujours en contact, comme beaucoup d'ailleurs. Et j'avais bien aimé son parcours, comment il a raconté le fait de repousser son côté homosexuel et d'essayer de doper son hétérosexualité qu'il pensait être la norme, jusqu'à ce qu'à un moment, voilà, il fasse face à son orientation. Et il raconte tout ce cheminement, je trouve, avec beaucoup de tendresse. Ouais.
Alors, on l'aura compris, On the Verge parle de sexe au masculin, sans tabou ni jugement, pendant une heure environ, soit le temps d'un coït. Ou deux. ou trois. Enfin bon, bref, ça dure une heure, quoi.
Ça me semble ambitieux. Quand les hommes parlent de sexualité entre eux, les conversations sont souvent biaisées, oui, je sais le choix des mots, par l'injonction à la virilité. Est-ce que vous êtes dit que ça a laissé le champ libre pour recueillir une autre parole, justement?
Mais c'est complètement ça, Charline. En fait, l'idée, c'était de casser un peu ces codes de la masculinité dite toxique, du culte à la performance, des hommes qui parlent entre eux de leur sexualité, alors souvent hétéronormée, mais pas que, hein. Dans la sexualité homo, ça peut être aussi cette injonction-là. L'idée, c'était de parler des doutes, des peurs, des faiblesses, de vulnérabilité, de plaisir, d'envie, de la sexualité et mouvement. Donc c'est ça qui était aussi intéressant, c'était de capter cette discussion et de pouvoir aussi la rétribuer à des hommes, des femmes, des gens qui s'y intéressent. Donc c'était aussi, ce que j'aime bien dire, c'est un espace de discussion safe. Alors c'est le mot 2021 et aussi 2022, bienveillant. Mais l'idée c'était ça, c'était de les laisser parler. Moi je suis vraiment un passe-plat en fait, hein. Et l'idée c'est ça, c'est qu'ils se sentent au moins l'espace de cette discussion qui dure une heure pour les auditeurs auditrices, mais qui est bien plus longue quand on se rencontre. C'est peut-être une des rares fois où ils disent les choses. Et certains me l'ont dit d'ailleurs, hein, que il y a des choses qu'ils ont jamais dit à leur compagnon ou leur compagne. Je suis parfois le tombeau de certains secrets. Donc ouais, je pense qu'il y a aussi un travail à faire de ce côté-là.
Enfin, le tombeau. Ils n'ont jamais peur, par exemple, d'être identifiés à l'antenne juste à travers leur voix.
Alors effectivement, comme enfin beaucoup changent, demandent à changer leur prénom ou laisser un peu d'être un peu nébuleux sur la région de France où ils sont. Il y en a qui ont un petit peu peur. Après, je pense qu'il y a aussi parfois une envie aussi d'exprimer quelque chose à travers le podcast qu'ils n'osent pas dire peut-être à leur conjoint ou conjointe. Il y en a qui pensent effectivement. Après, je crois que c'est aussi comme je le pense, et loin de moi l'idée, hein, vraiment de me substituer à un professionnel de la santé mentale ou sexuelle, mais je pense qu'il y a quelque chose de thérapeutique pour certains, donc ils ont besoin d'en parler. Ouais.
Le premier épisode de On the Verge, pardon, c'était en février 2019.
Ouais.
Vous vous souvenez de votre première fois?
De ma première fois, ou de cette première fois? Oui, c'est avec Émile qui est un des épisodes qui reste un peu vraiment, enfin l'épisode que les gens ont aimé. Émile que je connais très bien parce que les premiers épisodes sont des proches à moi, des vrais bons potes et des amis qui ont été tellement sympas de jouer le jeu avec la petite phrase non mais vas-y on fait ton truc et ça marchera jamais. Donc ça c'est un peu la blague entre nous. Émile ouais qui est un mec extra. Alors on a enregistré fin 2018 et j'ai mis vraiment longtemps à trouver le bon rythme, parce que c'est pas à vous que je l'apprends, tout est question de rythme. Donc trouver le bon rythme du montage, le bon rythme de la façon d'amener les choses. Et puis je l'ai monté, démonté, l'épisode bien sûr, et jusqu'à trouver vraiment le bon format. Et donc il a mis 3-4 mois à être publié. Ouais.
Le sujet... Juste une chose, pardonnez-moi pour mes sautes de voix parfois, mais imaginez que vous travaillez en binôme et que votre partenaire, juste avant un enregistrement, vous gave de piment. Vous voyez un peu la situation dans laquelle je
me trouve. Ce serait vraiment une pratique très étrange. Personne
ne fait
ça.
Ah, mais ça serait tellement déloyal. Mais tellement déloyal.
Mais c'était pas du tout piégé. Je vous voulais tout qu'on raconte tout. Je raconte tout. J'ai gentiment amené un banh mi à mon camarade de bureau. J'ai précisé sans piment, mais il se trouve qu'il y en avait deux petits bouts. Voilà, Antoine a une forme d'intolérance au piment.
Moi, je comprends parce que je suis comme Antoine et je souffre.
Deux gros bouts. Bon, on s'écarte.
Il n'y avait rien de prémédité.
Non,
au sujet.
Pardonnez cette voix un peu faillible aujourd'hui.
Le sujet de votre podcast, Anne-Laure, est évidemment extrêmement fédérateur, la sexualité. Quels sont les écueils à éviter pour justement ne jamais frôler le racoleur?
Ah, c'est une bonne question. On m'a demandé parfois quelle est la limite, justement, que je pose. Parce qu'il y a beaucoup d'épisodes où les sexualités sont vraiment très trash. On va dans des pratiques... mes invités racontent des pratiques qui sont parfois à la limite de l'audible pour certaines personnes. Encore une fois, ça c'est un curseur personnel. Je pense que pour éviter justement le racolage, éviter toute forme de facilité et surtout désamorcer. Moi, je sais que quand je publie un podcast, j'écris toujours une note qui accompagne avec des trigger warnings très importants, hein, pour les gens qui sont un peu plus sensibles ou qui ont, voilà, où c'est un peu trigger s'ils écoutent telle ou telle pratique ou telle situation et contexte. Et surtout, moi, je ne rebondis jamais dessus. Avec un jugement qui m'est personnel, j'essaie toujours d'accueillir l'information. S'il y a des pratiques dangereuses, le rappeler, des pratiques à risque ou quelles qu'elles soient, hein, que ce soit que ça mette en situation délicate le partenaire ou la santé ou l'intégrité physique ou psychologique. Enfin voilà, j'essaie toujours de ramener ça. Et puis quand il y a des ça s'écarte un peu. On va dire de la bienséance, quand il y a des propos qui deviennent un peu difficilement entendables et respectueux pour des gens invisibilisés ou autres. Pareil, j'essaie un petit peu de remettre dans la justesse, mais ce qui m'est difficile, c'est voilà, de pas donner de jugement. Donc c'est un exercice.
Mais sans donner de jugement, ça veut dire que vous recadrez ou bien une fois l'enregistrement terminé, vous enlevez certains passages qui pourraient heurter quelques sensibilités, comme on dit.
Ouais, ça m'est arrivé d'enlever certains passages quand je trouve que ça ne nourrit pas le propos. Ouais. Après, ça donne aussi, ça contextualise quelqu'un qui a des propos homophobes ou racistes. Si j'enlève tout ça, on comprend moins bien après son fétichisme sur les blondes aux yeux bleus. Donc je suis obligée un petit peu de parfois laisser ce genre de propos qui sont plus qu'indélicats et donc voilà, j'essaie en tout cas de recadrer aussi mon invité tout en
et de faire des rappels à la loi.
Voilà, rappel à la loi exactement sur les rapports protégés. Enfin, en tout cas, quand on enlève un préservatif pendant un rapport et qu'on ne prévient pas son ou sa partenaire, c'est devenu. Enfin, c'est par exemple en Suisse, c'est vraiment considéré comme du viol. Ouais. En France, il y a encore un peu de jurisprudence sur le sujet, mais voilà, j'essaie de rappeler la loi effectivement et le cadre, mais j'enlève des choses voilà qui sont gratuites.
Et alors, pour vous qui en entendez de toutes les couleurs, si je puis dire, est-ce qu'il y a un seuil qu'il est difficile de franchir, ou que vous avez du mal à...
Bien sûr, déjà les pratiques paraphiles, donc qui sont versées dans la perversité,
ouais.
Et tout ce qui est effectivement pénal. Je ne pourrais pas enregistrer, ouais. Ou en tout cas dans un... Alors c'est un peu ambivalent, parce qu'à la fois j'ai envie... que ce podcast soit libre et qu'il soit pas effectivement dans une niche de tout le monde est super déconstruit, hyper open, etc. Et en même temps, je n'aurais pas les capacités personnelles d'assumer et d'accueillir une parole comme celle-ci. Donc si je devais interviewer un homme effectivement qui a des pulsions ou qui a des perversions graves, j'aimerais être accompagnée d'un professionnel de la santé avec moi pour essayer de comprendre. Après, je sais pas si j'ai les épaules pour, je le rappelle, ce n'est pas mon métier.
Oui.
Donc voilà, pour le moment la loi c'est bien, ça me permet de cadrer le truc.
Merci Anne-Laure Parmentier. On continue à parler de On the Verge ou On the Verge, hein, comme on veut, ça marche dans les deux sens, mais dans quelques instants seulement, parce que là, c'est le moment de ce qu'on appelle ici le podcast.
Le podcast.
Le podcast.
Dites-vous que la chronique est mieux que le jingle, allez-y, Charline.
L'école normale supérieure donne la parole à la jeunesse sur les enjeux du climat et c'est l'objet du podcast Dès Demain qui revient pour une deuxième saison. Présentation.
Je m'appelle Robin, je suis étudiant en biologie.
Moi, c'est Emma et je suis étudiante en géosciences.
Je m'appelle Inès et je suis étudiante en géographie.
Moi, c'est Blage et je suis en sciences cognitives.
Inès, Blage, Emma et Robin sont étudiants à l'École normale supérieure à Paris. Ensemble, ils s'interrogent sur la crise environnementale.
Est-ce qu'on a le pouvoir de changer le climat? Et si oui, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas déjà fait?
Je me demande si chaque petit geste compte vraiment.
Est-ce la première fois que le climat change?
Est-ce qu'on est tous finalement sensibilisés de la même façon au changement climatique? Comment avancer ensemble?
Pour répondre à ces questions, nous sommes partis à la rencontre de chercheurs, de climatologues, d'écologues, d'historiens des sciences et d'océanographes. En 6 épisodes, on vous donne des clés pour comprendre la situation, comprendre pour agir. Et parce que la recherche sur le climat se fait aussi en mer, on vous embarque également sur l'expédition Juste 2 degrés pour suivre les aventures des étudiants-chercheurs en route pour l'Antarctique.
Dès demain, c'est accessible sur toutes les plateformes et je vous le recommande vivement.
Et maintenant, Charline, vous voulez nous parler de mailles, de brousouf, de blé, de fric, d'oseille, de pèse, de pognon, quoi.
De Thune, un podcast intime sur l'argent et notre invité nous en conseillera d'ailleurs un autre en fin d'émission. Thune est un programme produit par les deux journalistes Laurence Velli et Anna Borel. Elle questionne une personne sur son rapport intime à l'argent et lève l'un des derniers tabous de notre société. Ici, le témoignage d'Audrey dans un épisode intitulé « De la perte de l'être aimé au cauchemar financier ».
C'était purement psychologique de me dire, je suis une femme seule maintenant et j'ai 4 enfants. Et ça, je pense que comme j'étais pas non plus complètement au courant du patrimoine de mon mari, j'ai eu un poids, enfin une véritable angoisse de me dire tout retombe sur mes épaules aujourd'hui et je ne sais pas comment je vais pouvoir les élever. Et donc je me suis jetée à cœur perdu dans le travail, pas tant pour me distraire, hein, mais vraiment pour pouvoir gagner de l'argent.
Le programme est découpé en deux parties, le témoignage d'abord, puis la parole d'un expert, neuroscientifique, avocat du divorce, journaliste spécialiste de l'argent dans le couple. De quoi tenter de répondre à la question, l'argent fait-il bonheur? Et si oui, peut-on chiffrer le coût? Et je demande un devis. Thunes, c'est dispo sur toutes les applis.
Cons en commun, Alexandre Aja, Pitoff, Jean-Pierre Jeunet et Louis Leterrier.
Tous ont traversé l'Atlantique pour réaliser des films et tous sont interrogés à ce sujet dans Hollywood French Lovers par Maël Diallo du magazine SoFilm et comme on dit au cinéma, bande-annonce.
Aspirateur de talent, accélérateur de carrière ou fossoyeur de rêves d'enfant, pour les cinéastes du monde entier, Hollywood, c'est tout ça à la fois.
En dehors de quelques virages, on va prendre par Hollywood Way.
Un monde complexe, toujours extrême et incontournable.
Hitman a été vraiment un film fondateur pour pouvoir faire d'autres choses. J'ai appris énormément.
Pour mieux comprendre cet univers, chez SoFilm, on a décidé de vous raconter les histoires de ces cinéastes français et françaises qui sont partis à Los Angeles le temps d'un film ou qui s'y sont carrément exilés pour y poursuivre leur carrière.
C'était pas facile, hein. Il y avait une sacrée pression. Je me souviens qu'il n'y a rien qui marchait jamais.
Vous pourrez entendre Jean-Pierre Jeunet vous raconter le tournage difficile d'Alien, la résurrection. Ou Mathieu Kassovitz vous dire comment il s'est retrouvé par hasard à tourner Gothica.
C'est un film qui m'a été livré par Joel Silver, le producteur des Matrix, et qui a vu justement les Rivières pourpres dans l'avion en venant à Paris, et qui m'a appelé deux heures plus tard en lui disant « Je tourne un film dans un mois, je cherche un réalisateur, tiens voilà le scénario. »
De l'idée du film à sa promo, du rêve à la désillusion, embarqué dans un vol direct pour Los Angeles.
Vous pourrez y constater que leurs vies n'ont pas été de longs fleuves tranquilles en territoire Yankee et Hollywood French Lovers, c'est dispo sur toutes les applis.
Merci Charline. Anne-Laure Parmentier, on continue de réchauffer France Inter avec votre podcast dans un instant, juste après un morceau de Prince, Sexy Motherfucker.
We're all alone in a villa on the Riviera. Got some friends on the south side in case you cared. Out of all of your friends, I wanna be the closest. That's why I tell you things so you'll be the most. It's when it comes to life, to be this man's wife, you got to be well educated on the subject of fights. I mean the prevention of, in other words, it's R.E.M. meaning of this thing called love. Are you up on this? If so, then you can get up with a hug and a kiss. Come here, baby.
Sexy motherfucker,
come here, baby. Yeah,
you sexy motherfucker.
We need to talk about things. Tell me what you do, tell me what you eat. I might cook for you. See, it really don't matter, cause it's all about me and you. Ain't no one else around. I'm even with the blindfold gagged and bound. I don't mind. See, this ain't about sex, it's all about love. Charge of this, a life and the next. While all the cosmic talk, I just want you smarter than I'll ever be when we take that walk. Come here, baby. Yeah.
You sexy motherfucker.
Come here, baby. Yeah.
You sexy motherfucker.
Horn, stand up, please. Come here, Tommy.
what's a digit dollar? The sexy motherfucker's so fine, I'll drink up bath water. A long lady, 5'8", packing ass as tight as a grip. I want to spit my game and I said to myself, just kinda son. Cause I'm usually quite the calm one. You never found me out problem, boy, I'm just having fun. But I had to change my state of mind, but it's behind. I bet if you throw that ass in the air, it'll turn into sunshine.
Sexy motherfucker, shaking that ass. Sexy motherfucker, shaking that ass. Shaking that ass, shaking that ass. Sexy motherfucker, shaking that ass. You sexy motherfucker.
Inter. Antoine Decaune. Pop.
Ou plutôt Pop Podcast, puisque nous sommes vendredi et nous parlons aujourd'hui de ce podcast On The Verge de Anne-Laure Parmentier, notre invitée spéciale aujourd'hui. Alors Anne-Laure, on est à une époque où on voit émerger des podcasts sur le sexe, mais souvent, dites-vous, un peu trop marginaux ou un peu trop pédagogiques, et peu de choses autour de la sexualité masculine. C'est ça qui a été le déclic pour vous ?
Et complètement. Alors le déclic, il a été... Ça a été la somme de plusieurs choses en fait. Il y a effectivement la libération de la parole féminine qui est très intéressante depuis quelques années. Le mouvement MeToo a pas mal contribué à cela. Et sur les réseaux sociaux et même sur les plateformes comme le podcast ou YouTube, il y a pas mal de femmes qui prennent la parole et 100% de soutien pour cette libération-là. On parle enfin du clitoris dans les manuels de SVT du collège. Donc ça, c'est super intéressant. Mais dans un débat et en tout cas dans une idée où le féminisme est égalitaire et paritaire. Moi, je fais partie de ces gens qui sont plus pro-débat que pro-combat. Mon militantisme, en tout cas, passe par la discussion. L'idée, c'était aussi d'ouvrir cette parole aux hommes. Et en regardant un peu ce qui se faisait, que ce soit dans la presse masculine ou que ce soit sur d'autres plateformes d'information, il y a très peu, mais vraiment très peu, d'informations sur la sexualité masculine. Et les jeunes hommes, et jeunes femmes aussi, hein, mais sont vraiment laissés avec une pornographie qui n'est pas la représentation de la sexualité que l'on peut vivre quand on commence sa sexualité, voilà, en jeune adolescent, jeune adulte. Et c'est vrai que je trouvais ça assez dévastateur pour cette génération-là, mais pas que, parce que moi j'ai 38 ans et j'ai pas mal de potes qui sont excessivement largués dans leur sexualité, qui ne comprennent pas comment marche le désir d'une femme, mais comment il marche leur propre désir, qui confondent encore éjaculation et orgasme. Certains, vous leur parlez de la prostate, c'est un énorme red flag, ils confondent pratique et orientation sexuelle. Enfin, voilà, il y a vraiment, on sent, en tout cas quand on discute de tout ça, que c'est encore assez compliqué pour certains. Et en cherchant, il y avait vraiment pas grand-chose, quoi. Il y a des livres très scientifiques, mais pas et médicaux, mais pas de témoignages.
Bisexualité, BDSM, troubles de l'érection, asexualité, grossophobie, couple libre, polyamour, plaisir prostatique et son tabou. Voici quelques-uns des nombreux sujets traités dans le podcast. Est-ce que c'est l'occasion qui fait le larron ou l'inverse, enfin en termes moins ringards? Est-ce que c'est l'invité qui détermine le sujet ou est-ce que vous castez vos intervenants en fonction d'un sujet choisi?
Eh bien, en fait, les invités, j'ai pas mal de propositions de participation. Et en échangeant rapidement avec l'invité, on va brosser de toute façon son histoire. Comme vous l'avez expliqué, c'est une façon temporelle. Et généralement, c'est leur histoire qui va faire le sujet. Certains ont envie de discuter, alors comme Damien tout à l'heure, du coming out. D'autres, ça va être du BDSM. D'autres, ça va être la rencontre du plaisir prostatique. Mais pas que. Ça va être la première fois. Ça va être les premiers souvenirs autour de la sexualité. Ça va être aussi l'impact de l'éducation ou de la religion sur l'ouverture d'esprit à sa sexualité. Enfin, c'est toute cette brique par brique, la construction, puisqu'on est fait de ça, et jusqu'à projeter des envies futures. Pourquoi pas.
Alors, vous avez déjà croisé des pratiques particulières liées à l'ingestion surprise de piments, par exemple?
Alors non, mais on peut en parler si vous voulez.
On va peut-être faire une émission si vous voulez.
Écoutez, on peut prendre rendez-vous.
On va laisser passer un jour ou deux.
Hein. Le temps que ça dégonfle un peu.
Ouais, voilà.
Non mais je suis sérieuse, vous faites peut-être une allergie. Hein.
Ah, je fais peut-être en plus
une
allergie.
Mais c'est pas prémédité,
oui.
Encore une fois. Bah je le dis devant témoin et en écoutant
si en plus je fais une allergie.
Non mais je suis sympa, je ramène un déjeuner. Maintenant voilà, ça va être de ma faute.
Aujourd'hui, On the Verge, c'est 1 million d'écoutes depuis le début de ce podcast. Donc un franc succès. Qu'est-ce que vous dites en regardant dans le rétroviseur? Si vous avez un rétroviseur, bien sûr.
J'ai un rétroviseur dans lequel je regarde. Je suis la première étonnée. Parce qu'effectivement, c'était vraiment un side project. J'aime le support audio. J'aime la confidentialité qu'apporte le podcast. L'échange qui est toujours... moi, je repars toujours... parce qu'effectivement, on parle de sexualité, mais je rencontre une personne qui va vraiment se livrer à moi et offrir vraiment ce qu'il est, mais d'un point de vue d'une authenticité folle. Et c'est rare, je trouve, aujourd'hui, d'avoir des rapports aussi sincères. Et donc, c'est toujours très nourrissant d'un point de vue personnel. Et je me rends compte à quel point les auditeurs et auditrices qui depuis le départ pour certains sont très fidèles, à quel point ça les aide, alors que ce soit effectivement dans leur trajectoire personnelle mais aussi dans leur couple, comment amorcer un sujet X ou Y, et puis même ouvrir des champs des possibles, se rendre compte qu'on n'est pas tout seul. J'ai l'exemple en tête de la masturbation. J'ai un invité qui expliquait que lui se masturbe 5-6 fois par jour depuis qu'il est ado, c'est normal, c'est ok. Pour lui, c'est la normalité absolue. Et j'ai d'autres invités qui ont peut-être essayé un peu plus jeune, adolescent, et n'en voient pas l'utilité. Et je pense par exemple à un de mes invités, François, qui a 68-69 ans, et qui ne s'est jamais masturbé, et ça ne l'intéresse pas. Et en fait, entre les deux, il y a quand même un monde. Ouais. Et c'est super intéressant, parce que du coup, tout le monde peut se dire, bon bah finalement, ce que je fais, c'est ok, quoi. Il y a de tout, il n'y a pas... un modus operandi de c'est une fois par jour, sinon il y a un problème, etc.
Ghislain, notre réalisateur, qui nous écoute, prenant de la graine.
Vous avez donné la parole à de nombreux hommes et beaucoup d'entre eux vous ont dit que c'était plus facile de parler à une femme qu'à un homme. J'imagine que l'absence de rapport de séduction, ça aide, parce que sinon tout le monde ment. On va pas...
Exactement.
Non, mais il y a quelque chose de cet ordre-là.
Oui, mais complètement. Le fait d'être... en fait, vous parlez de rapport de séduction, je pense que justement, si c'était un homme, il y aurait un rapport de, quelle que soit l'orientation, un peu de compétitif. Les hommes ont ça entre eux. Le fait que je sois une femme et que justement, on désamorce tout de suite la situation, il y a quelque chose d'un peu presque thérapeutique, où je ne suis plus une femme, mais je suis une écoute, je suis une oreille. On est vraiment... je le fais dans un cadre neutre. Il y a une distance... physique, il y a vraiment c'est un moment pour eux en fait. On se parle un peu avant. Je crée tout de suite une intimité. On casse les barrières, on se tutoie, on va échanger rapidement. On fait du small talk, mais qui finalement a plus comme objectif de les déstresser, de les mettre dans un cadre agréable. Et après effectivement on y va. Et dans les épisodes, moi je me coupe à peut-être à 70-80% pour qu'il ne reste plus que la relance, pour que vraiment l'auditeur et l'auditrice aient l'impression d'avoir à côté d'eux l'invité. C'est super important que cet échange soit restitué vraiment au maximum, au plus proche de l'invité.
Et cette forme de neutralité, elle implique que vous ne soyez pas trop proche des gens que
exactement.
Vous
c'est pour ça que quand c'était avec mes potes au début, c'était pas facile. Il y a d'ailleurs l'épisode de mon meilleur ami que je n'ai jamais pu sortir parce que c'est une heure de private joke.
Ouais.
Ça n'a aucun sens.
Anne-Laure, vous qui venez du monde de la communication, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous mettre à l'écoute de mes congénères de sexe mâle ?
Eh bien, comme je vous disais, il y a l'intérêt pour le format podcast que j'aime vraiment beaucoup.
Un sujet très particulier, on est d'accord.
J'ai toujours eu Alors déjà, j'aime les humains, j'aime les hommes. J'aime l'écoute, c'est vraiment quelque chose que je trouve passionnant parce qu'effectivement, c'est ce que je dis souvent à la sexualité, on est la somme de notre éducation, de notre religion, de notre milieu professionnel, de nos rencontres, bonnes ou mauvaises. Il y a certains invités qui en parlent, les dessins animés qui ont engendré chez eux certains kinks, donc certaines.
Les chevaliers du zodiaque.
Ah, ouais. Charline.
Je pense à Bambi, moi.
Chacun son truc. Mais en fait, voilà, on est un peu la somme de tout ça, et c'est surtout que la sexualité, c'est ce qui divise le monde, le fait vibrer, créer des guerres impensable. Enfin, il y a plein de livres, vous savez, des livres très connus, hein, où tout est basé sur la virginité d'une femme. Et on est là et on se dit, ah, c'est ça, en fait, le Graal, c'est la virginité d'une femme.
Christianisme.
Par exemple, pas que. Mais je pensais à tous les livres sacrés. Mais c'est vrai qu'il y a la sexualité et pour vendre, on montre une poitrine, on génère le désir. Enfin, c'est partout. Ouais. Donc c'est ça que je trouve intéressant, c'est et la sexualité, mais la sexologie aussi.
C'est intéressant, j'irais même jusqu'à dire que c'est passionnant. Ça s'appelle On the Verge ou On the Verge en français. C'est un nouvel épisode tous les 15 jours à retrouver sur toutes les plateformes. Anne-Laure Parmentier, dans la suite de Pop-up Podcast, nous parlerons de podcast, mais encore de podcast, ce sera juste après Wild Child des Black Keys. Et c'était le Wild Child des Black Keys. Vous écoutez Pop-up Podcast, la seule émission de radio sur les podcasts que vous pouvez écouter à la radio et en podcast. Oh, mais c'est Cosmo qui arrive. Bonjour Cosmo Flash.
Bonjour Antoine, bonjour Anne.
Les feuilles s'envolent parce qu'évidemment il arrive par les airs.
Bien c'est sûr.
Super, regardez son petit moule burn comme il est saillant. Bonjour Cosmo.
Oui, bonjour.
Vous avez cette piments, semaine, pas vous arrivez à toute vitesse.
Oui, toujours.
Allez.
Voilà, cette semaine, je vous parle de ragots, de potins, de rumeurs avec le podcast Normal Gossip.
Gossip. Et comment on traduirait ça chez nous, s'il vous plaît, Cosmo?
On pourrait traduire par, je sais pas, les petits ragots, en fait. Mm-hmm. C'est un podcast sur les radeaux, les potins, quoi.
Les radeaux.
Les radeaux, surtout. Bon, alors, c'est animé par la journaliste Kelsey McKinney et c'est produit par Defector Media. C'est un blog fondé par des anciens journalistes de Deadspin. Pour la petite histoire, c'est l'un des blogs sportifs les plus lus aux États-Unis.
Voilà. Content de l'apprendre.
Voilà. Alors, chaque épisode suit un peu la même structure assez minimaliste. Kelsey McKinney est accompagnée d'un invité qui, jusqu'à présent, provient généralement de son groupe d'amis, de connaissances dans le domaine des médias et commence par une petite conversation au cours de laquelle cet invité est interrogé sur sa relation avec les potins dans sa vie. Mmh. Et par exemple, dans l'épisode 2, l'invité, Sam, parle directement du rôle des ragots dans notre vie. Les ragots dans notre vie et de leur importance pour conserver finalement un semblant de société.
One of the weird benefits of gossip is that, like, it is a way for the powerless to have power. when I think of the people that I go to for gossip the most, it's the folks that are lowest in the social order, you know, the lowest in the chain. They have the greatest stories to tell, and they can spin shade on everybody. And they have to use that as their power because they don't have the power that the executive has or that the rich man has. Gossip is their power. So I don't know. I fundamentally believe that there is a space and a place for gossip in our society.
Voilà, donc si on réfléchit bien, les ragots servent à tisser des liens, oui, à faire société en partageant des informations importantes ou pas entre nous. Puis surtout, ils servent à celles et ceux qui ont le moins de pouvoir d'avoir du pouvoir, justement, souvent sous les petites mains qui ont des choses à raconter sur les grands de ce monde et qui peuvent finalement leur nuire le plus en diffusant des rumeurs sur leur vie. Et à ce moment-là, justement, les deux invités se disent que finalement, le journalisme, c'est un peu, parfois, juste une série de ragots vérifiés auprès de plusieurs sources.
Journalism really, like, nobody wants to say this, but a lot of, like, journalism is really just, like, confirming gossip.
Oh, yeah. Well, and, like, I remember it was especially crazy at the start of the Trump administration. Remember there was that long New York Times article?
I sure do.
All about how Donald Trump wore a robe around the White House all the time, but also couldn't find the light switches. But it was a bunch of unnamed sources talking about how Donald Trump couldn't find the light switches and got lost in the White House. It was on the front page of the Times. Six journalists wrote it, but I was like, this is gossip. This is a gossip piece.
Voilà, et la présentatrice se pose la question, qu'est-ce qu'un reportage politique sinon des potins vérifiés, généralement attribués à des sources anonymes. Et du coup, Sam, l'invité, prend l'exemple des enquêtes sur la vie du président Donald Trump tout au long de son mandat, et notamment de ce très long article du New York Times, écrit par six journalistes quand même, selon lequel le président se baladait toujours en robe de chambre à la Maison Blanche et ne trouvait jamais les bons interrupteurs pour allumer les lumières, et du coup il se perdait tout le temps. Alors c'est vrai que quand on y pense, c'était probablement vrai, hein, mais au final c'est des potins, quoi, hein, ça n'apporte pas grand-chose au débat, mais c'est rigolo et ça permet de se moquer des puissants, quoi.
Est-ce qui pourrait vous permettre, par exemple, le Cosmo, de vous moquer de moi dans mon dos?
Non, bien sûr, je me moque jamais de vous, Antoine. Non, jamais.
Si. Okay.
Bon, alors, je continue. Hein. Si ces petites conversations sur la nature profonde des rumeurs sont toujours intéressantes et drôles, le vrai plat de résistance du podcast, c'est quand la présentatrice se met à raconter en détail un potin soumis par un lecteur du blog ou par quelqu'un de son cercle d'amis. Et là, justement, elle nous raconte cette rencontre entre l'une de ses amies éloignées et un beau et grand barman, juste avant la pandémie. Et en général, ce genre de mec, c'est red flag, comme on dit.
Tall, cute bartender, uh-uh, he's a fuckboy.
Get ready to raise a couple more, because he's the type of guy that Kat's really attracted to, which is the type of guy who's, like, hot in a, like, hasn't showered in 4 days kind of way.
Yeah, because and he hasn't showered.
Uh-huh, and has, like, a whole sleeve of, like, full-color tattoos and is, like, you know, like, campaigned for Bernie, right? Like, one of these guys. He's, like, a little judgy about other people's choices, but, like, also he's really hot.
Mm, yeah, he wants to explain Radiohead to you
yes.
on the first date,
yes.
doesn't he?
Yeah, exactly.
Voilà, c'est le genre de mec qui veut t'expliquer pourquoi, non mais Radiohead c'est vraiment un groupe qui a complètement changé le monde quoi, tu vois, puis qui a fait une campagne pour Bernie Sanders, bref, le package total. Je vous passe les détails, mais bien évidemment il y a un gros souci avec ce mec, il vit encore chez ses parents, mais ça ce n'est vraiment que la première révélation de l'histoire, parce que ça va prendre des proportions particulièrement gênantes ensuite, mais là je vous laisserai écouter pour tout savoir de ce ragot délicieux, et je pense que vous ne serez pas déçus.
Ragot donc, ok. Encore un teaser, mais vous ne racontez jamais les histoires en entier, mais vous êtes teaserman en fait, vous n'êtes pas Cosmo.
Ouais, je sais Antoine, mais là, ça vaut vraiment le coup d'aller jeter une oreille. Ça se termine en drame familial, c'est absolument génial et on s'y attend pas du tout. Et d'ailleurs, toutes les histoires racontées sont toujours, elles commencent très banales, elles sont très banales. Il s'agit toujours de rendez-vous galants, de conflits de groupe, d'histoires de petites villes ou d'histoires d'amour ratées. Mais ce n'est pas parce qu'une histoire est banale qu'elle n'est pas captivante. Et justement, Kelsey McKinney est vraiment une super conteuse. On est pendu à ses lèvres tout le long du podcast avec son style hyper décontracté, jusqu'à ce qu'une révélation complètement inattendue nous arrache un sourire, un rire ou nous fasse lever les yeux au ciel. Et la conversation est super interactive en plus, puisqu'elle s'arrête parfois pour demander à son invité ce qu'il ou elle ferait dans la situation. Et finalement, on se sent vraiment à l'aise à l'écoute de ce podcast, à l'aise comme un verre avec les potes en terrasse où on se raconte les dernières nouvelles, le sourire malicieux et l'œil curieux d'en savoir plus. Et en fait, il y a quelque chose d'absolument élémentaire dans Normal Gossip. Au final, ce podcast revient un peu à l'essence même du genre. C'est une conversation simple, avec des bonnes histoires, des rires, du suspense parfois un peu, et un twist final toujours délicieux. C'est plutôt addictif, c'est plutôt frivole aussi, mais c'est surtout très amusant.
Merci Cosmo. Voilà, mais oh, mais le voilà qui redécolle déjà, mais qui repart. Oh, même pas le temps de nous saluer et de nous faire oh, au revoir Cosmo, au revoir. Il est reparti avec le même peignoir que Donald Trump en plus. Anne-Laure Parmentier, ce sera à votre tour de nous conseiller un podcast dans un instant, juste après un titre qui me définit bien, Hot and Fun.
Okay, we wrote this for a purpose to motivate you at this time. With this hypnotizing bassline, please feel free to lose your mind. And get high, get money, get sex, get real, all in between. Oh yeah, this is stadium music, 50,000 at a time. Let's get right. Get real, all intertwined. This is stadium music, 50,000 jumping at a time. Let's get right. People don't want to think no more, they just want to feel. They want to let go.
Nerd featuring Nelly Furtado et c'était Hot and Fun. Anne-Laure Parmentier, vous ne le savez peut-être pas, mais ici nous avons une séquence qui s'appelle le podcast. Mm-hmm. C'est-à-dire le podcast que l'on conseille à un pote, jeu de mots, en référence évidemment au coup de fil à un ami de Jean-Pierre Foucault. Jingle. Le podcast que vous voulez conseiller à un ami, c'est Histoire d'argent, un podcast de Fabrice Florent. Bande annonce.
Le pognon, la thune, le blé, la moula, le flouze, les pépettes, le fric, l'oseille, le grisby, le pèse. C'est fou le nombre de synonymes qu'on a inventés pour éviter de le nommer l'argent. C'est peut-être un détail pour vous, mais quand on y réfléchit deux secondes, ça veut dire beaucoup. De mon côté, ça fait quasiment un an que je décortique mon rapport à l'argent. Et tout comme la paternité, la masculinité ou le succès que je traite par ailleurs dans mes autres podcasts, j'ai découvert en moi des parties bien planquées qui intervenaient inconsciemment sur mon rapport à l'argent.
Alors pourquoi ce podcast en particulier, Anne-Laure ?
Eh bien, c'est un vrai sujet, l'argent. Autant peut-être même plus que la sexualité, il y a un vrai tabou autour de l'argent. On ne se dit pas entre potes, rarement, combien on gagne. Mmh. on n'est pas très à l'aise de dire le prix des choses. Et comme le dit très bien ce talentueux podcasteur qui est aussi un ami, Fabrice Florent, le rapport à l'argent, il y a vraiment quelque chose à faire, que ce soit dans son éducation, dans sa vie professionnelle, personnelle, même amoureux, sentimental. On a tous un rapport à l'argent qui est complexe.
Il a démarré ça il y a longtemps ?
Non, c'est un de ses derniers podcasts, justement. Il y a peut-être 4 ou 5 épisodes, mais ils sont vraiment très intéressants. Il interviewe justement des gens qui ont des revenus très différents, notamment une jeune femme qui était radiologue et qui est passée de 25 000 euros par mois à 2 ou 3 000 euros parce qu'elle a monté sa boîte, ce qui est déjà pas mal quand on monte sa boîte. Ouais. Mais elle explique le gap que ça fait d'un point de vue sociétal et puis même avec soi-même, quelle valeur j'ai quand je ne gagne plus 25 000 balles par mois, qui est une énorme somme d'argent. Donc c'est très intéressant de se poser aussi cette question, quel est mon rapport à l'argent ?
Quelle est la durée moyenne du podcast ?
C'est une bonne conversation de 40-45
minutes. 40-45
minutes,
très bien. Ça s'appelle donc Histoire d'argent. C'est le podcast recommandé par Anne-Laure. Il s'agit de Fabrice Florent. Merci infiniment Anne-Laure Parmentier. On the Verge ou On the Verge, comme vous voulez, c'est à retrouver tous les 15 jours sur toutes les plateformes. Et On the Verge ou On the Verge, c'est comme vous voulez, est aussi à retrouver en livre aux éditions Robert Laffont. Exactement. Avec des compléments donc dans le livre.
Exactement, à des témoignages qui n'ont pas pu être enregistrés, justement pour des soucis de confidentialité. Ouais. Ces messieurs ont bien voulu que je retrace ça par écrit. J'ai aussi un gars qui est muet, et c'était hyper intéressant de faire cet échange avec son traducteur LSF. C'était un super challenge. Et puis on va un peu plus loin dans le visuel pour le coup, puisque je peux me permettre de raconter un peu plus à quoi ressemblent mes invités, parce qu'il y a un vrai fantasme autour
Bien
de
sûr.
À quoi ressemblent mes invités. Souvent on me demande. Et puis aussi il y a pris une thématique un petit peu tirée sur plein de sujets différents, mais en tout cas j'espère qu'il apporte des réponses à des questions.
Bien, et c'est chez Robert Laffont, On the Verge ou On the Verge comme vous voulez. Merci Charline.
Merci à vous.
Merci aussi comme vous voulez, et merci encore pour les piments et également
prie,
à toute l'équipe de Pop et à Félix Delacour qui était à la technique aujourd'hui. Lundi, on se retrouve pour un nouveau numéro de Pop, mais avant lundi, rendez-vous partout sur les internets 3615 Pop.